RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after jusqu'à minuit avec, comme tous les lundis, les avis tranchés de l'after, que ce soit en France et à l'étranger, et là même dans le monde entier, puisqu'on est à 10 jours de la Coupe du Monde. Spéciale Coupe du Monde donc, avec nos drôles de dames. Drôles de dames élargies, vous le verrez dans un instant. Pierre Ducrot est là comme tous les lundis, le pilier du lundi. Salut Pierre.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Joe.
Jonathan Macardy est avec nous également. Salut Jonathan.
Salut Jean-Louis, salut Pierre.
On laisse Daniel Riolo au repos parce que là on parle du foot mondial.
Bah, on repose, tu sais, c'est un peu comme les sélections. Le dernier match avant la Coupe du Monde, il le jouera, mais les matchs avant un peu moins importants, c'est les autres.
C'est ça.
Il y a Roland Garros surtout.
Il y a Roland Garros aussi.
J'essayais de cacher un peu ça, mais
ça n'a rien à voir.
Roland Garros à ce temps-là, c'est fini.
Bien sûr.
Il pourrait venir. Non, il se repose.
À son âge, la journée au soleil, c'est dur, tu vois.
Ah oui, il faut la soirée pour récupérer.
Non, on a préféré l'expertise sud-américaine de Jonathan, qui est là avec sa double casquette.
C'est vrai.
Voilà. Puisque tu nous parleras aussi du Pérou et de l'Argentine.
Oui. Tu sais que j'ai fait du Pérou, moi, ma surprise du mondial. Je mise dessus.
T'as raison, t'as bien raison.
Ah ouais.
C'est une très bonne équipe.
On vous parlera aussi du Brésil. Oui, le Brésil, on en parle moins, alors que quand même, c'est peut-être le favori à la Coupe du Monde.
Un des favoris, ouais, c'est sûr.
Un des favoris. On sera avec Stéphane Rosenbaum, spécialiste du foot brésilien. Il sera avec nous tout à l'heure, avis tranché sur le poste d'avant-centre dans cette sélection brésilienne. L'Allemagne et Joachim Löw, qui n'a pas pris le roi Sané aujourd'hui. Ouais, David Lorto nous expliquera que c'est logique.
D'accord.
Il nous le dira ça tout à l'heure dans son avis tranché. Ouais. Avec Philippe Auclair, on fera une parenthèse hors Coupe du Monde parce qu'il se passe pas mal de choses à Chelsea, notamment la rumeur Laurent Blanc, on fera le point avec lui tout à l'heure. Et puis les questions de l'after sur le mercato, notamment l'offre de service de Yaya Touré à Marseille. Ça me plairait bien. Et il a dit, vous donnerez votre avis un peu plus que cette moue dubitative que vous faites.
On a soufflé tous les deux.
Ah ouais, non. Non.
Comme
non,
un seul homme.
Bah, on fera ça tout à l'heure.
Bah, faut pas que ça devienne un peu, tu vois,
l'Eldorado. On fera ça tout à l'heure, quand même.
Ouais,
vous énervez pas
tout à l'heure. Mais quand même, je suis d'accord. Ouais, faut pas que ça
m'agace,
devienne,
en fait.
Tu pars vite, Jonathan.
Mais ça m'agace.
Bah, l'Otelli, c'est génial.
Bon, attends, on y revient tout à l'heure. Ce sera le mercato. Mais il y a l'équipe de France, bien sûr, donc, à 10 jours de la Coupe du Monde après cette victoire 3-1 face à l'Italie. Jonathan, tu as un milieu de terrain rêvé. Tu le développeras dans ton avis tranché. Et franchement, je pense que tu es le seul à penser comme ça, ou un des rares. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Et vous pourrez débattre sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Mais on commence tout de suite par l'avis tranché de Pierre Ducrot. Jingle Ducrot.
Mais moi, si je suis coach de Lyon, là, aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Alors Pierre,
t'arrives à faire ça pour de vrai?
Non, pas les bouffer.
Bah si tu les coupes avant, après tu peux.
Je crois qu'il y a des histoires, il faut s'enlever des côtes, des trucs un peu sordides.
C'est vrai?
Ouais, je sais pas.
Tu t'es penché sur la question?
Bah non, mais c'est le chanteur là, Marilyn Manson, c'est ça?
Oui.
Qui est apparemment. Bref, passons.
Ouais, je sais pas pourquoi tu vas la
sortir.
C'est toi qui parles de choses comme ça.
Bon, c'est difficile d'enchaîner après ce genre de sortie. Voilà, je remercie Jonathan pour ça.
Derrière.
Donc Pierre, hier, t'as fait un avis tranché sur Pogba. Aujourd'hui, tu vas pas refaire un avis tranché sur Pogba, mais plutôt sur le rôle de leader à la lumière des déclarations nouvelles de Pogba dans une interview à France Football, interview qui va paraître demain. Je vous relais ces déclarations. L'interview a eu lieu il y a 2 semaines. Donc c'était avant les premiers matchs de préparation, avant notamment son France-Italie à Nice qui s'est pas très bien passé avec notamment cette sortie sous les sifflets. Et Pogba dit ceci. Mon positionnement, je peux jouer à droite, à gauche, en sentinelle, je me sens à l'aise, mais ce n'est pas comme si j'étais toujours dans les meilleures conditions. C'est comme si on me disait, je veux que tu sois patron, mais qu'on ne me donne pas les clés. Ou, je te donne une maison, mais tu n'as pas les clés. Et il ajoute, en parlant de lui, Paul doit être patron. Oui, les gens dehors le pensent, moi aussi. Je suis un des plus anciens avec Deschamps, je veux être le patron de l'équipe de France, mais ce n'est pas que moi. Je veux prendre les rênes de l'équipe, mais il faut que je sois dans les meilleures conditions. Je ne dis pas que je veux qu'on change tout autour de moi, ce n'est pas ça. Mais c'est mon constat. Si je dois jouer arrière droit, je le ferai à fond. Voilà les déclarations de Pogba qui veut les clés de l'équipe de France, qui veut prendre les rênes, qui veut prendre plus de responsabilités.
Et c'est justement la crémière aussi, hein.
Comment?
Ouais, il veut la crème, le cul de la crémière aussi.
Oui, le beurre et l'argent du beurre. Pierre, qu'est-ce que ça t'inspire toi quand t'as lu ces déclarations?
Alors je suis désolé parce que t'as commencé à dire que j'ai parlé de Paul Pogba hier soir et j'en parlerai pas aujourd'hui, mais sauf que effectivement à un moment donné quand ça sort, On en a parlé un peu dans Team Duga. Je suis quasiment obligé parce que alors pour Joe qui était peut-être pas là hier soir, qui était peut-être pas écouté, je sais pas. J'avais émis le souhait, même si lui s'en fout complètement, je pense, mais que Paul Pogba revienne un petit peu aux sources, à ce qui avait fait de lui un très très bon joueur, un des plus gros potentiels, en milieu de terrain en Europe voire plus et donc j'avais pas forcément l'intention d'y revenir ce soir, même si hier soir ça concernait beaucoup plus pour moi le sportif, ouais. Même s'il y avait une petite corrélation quand même, bien sûr, tout ce qui se passe autour de Paul Pogba. Et quand j'entends ça aujourd'hui, je me dis finalement on est quand même assez loin de pouvoir retrouver le Paul Pogba pour moi de la Juve. Il s'occupe d'une seule chose dans ses déclarations finalement, c'est son rôle, c'est son statut, c'est alors un peu son poste sur le terrain mais pas trop finalement, même pas.
Il dit que ça lui importe peu.
Voilà, ça lui importe peu. Alors au-delà du timing déjà que je trouve terrible, même s'il a fait cette interview il y a 15 jours, il est pas censé ignorer que ça va sortir forcément juste maintenant. Donc ça je trouve que c'est terrible parce que ni lui ni l'équipe de France n'ont besoin de ce genre de déclaration maintenant. Et puis dans le contenu, c'est aussi terrible. Je dois être le patron. Tout le monde veut que je sois le leader. On ne me met pas dans les meilleures conditions. On ne me donne pas les clés de la maison, etc., etc. Alors, je sais pas de quoi il parle. S'il parle du terrain, tu joues, t'as joué à ton poste. Pour moi, en tout cas, Joe, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais effectivement, moi, je pense que Paul Pogba joue souvent au milieu, à gauche, en équipe de France, et que c'est son poste, et que pour ça, il devrait faire des prestations autres que celles qu'il a faites. Donc, s'il parle du terrain, je comprends pas. Et s'il parle en dehors du terrain, j'ai jamais vu moi que ce soit moi dans les équipes dans lesquelles j'ai joué ou extérieurement ou en parlant avec plein de joueurs ou en observant les grandes équipes, j'ai jamais vu moi des leaders qui le devenaient en le réclamant quoi. Tu n'es pas un leader crédible et de façon durable aux yeux des gens déjà de l'extérieur et surtout aux yeux de tes coéquipiers en réclamant quelque chose. Alors tu peux faire rire, tu peux amuser un peu la galerie, tu peux être un leader de vestiaire, mais pas dans le bon sens, malheureusement, un amuseur de galerie. Et il en faut parfois parce que c'est bien dans un vestiaire de rigoler. Mais c'est pas ça qu'on demande. Un leader, il s'impose naturellement quand sur le terrain, il est irréprochable et qu'il est à son niveau et qu'il donne tout. Et c'est là où j'en viens un petit peu à Griezmann et le vrai patron des Bleus. Oui, finalement, s'il y en a un en équipe de France, et la partie de mon avis tranché va être plus courte sur Griezmann, alors que c'est un peu l'objet de mon avis tranché, mais parce que finalement ça va aller assez vite. S'il y en a un pour moi qui aujourd'hui fait à peu près tout ce qu'il faut comme il faut pour être un leader naturel de cette équipe de France, c'est-à-dire que Griezmann pour moi il a pas toujours été parfait, toujours bon, mais au moins il a toujours eu une attitude exemplaire, il a souvent été décisif et il a toujours tout donné sur le terrain. Ouais. Et pour moi, c'est ce qui en fait le leader naturel de cette équipe de France aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que lui, il a toujours refusé ce rôle-là. Il l'a souvent répété. Il veut pas être un leader. Ça l'intéresse pas.
Il dit,
je veux être libre. Sauf que de façon naturelle, il l'est. Et c'est pas plus mal parce que c'est ses coéquipiers. Quand on sait comment marche un groupe et surtout dans une compétition comme ça, comme celle de la Coupe du Monde qui va arriver, c'est ce genre de leader qui est important. C'est ce genre de leader qui va emmener avec lui. C'est pas celui qui va effectivement réclamer de l'être, demander les clés. Ça va jeter des froids avec à mon avis avec d'autres joueurs qui oseront le dire ou pas, peu importe, mais ce sera pas en tout cas quelque chose d'uniquement positif de faire ce genre d'intervention. Donc voilà, je sais même pas si nous on doit chercher qui doit être le leader ou pas. On en parle parce que effectivement ça nous intéresse, mais c'est même pas important pour nous, c'est surtout pour l'équipe de France que c'est important. Ce vrai patron pour moi c'est Griezmann et les actes ou les paroles de Paul Pogba le prouvent encore plus pour moi.
C'est clair.
Alors Jonathan, qu'est-ce que t'en penses déjà sur les déclarations du jour, quand même sur le rôle de leader,
ça se réclame pas, ça doit venir naturel. On parle souvent de leader naturel, mais un leader ça s'impose par son charisme et par ses prestations sur le terrain. Or à l'heure actuelle, Paul Pogba, je pense pas qu'il a la carrure d'un leader, et je pense que ses prestations sur le terrain, on sera tous d'accord pour dire qu'elles sont indigentes. Là où j'étais pas d'accord avec toi, c'est quand hier tu disais que revenir aux sources ça incluait d'être hargneux défensif, de récupérer des ballons, chose qu'il n'a jamais fait à la Juve. En fait, ses meilleures saisons, c'est quand il joue effectivement en relayeur gauche, mais il joue dans l'animation offensive, il est quasiment numéro 10 derrière la doublette d'attaquants composée de Carlos Tevez et d'un autre. Et surtout, faut pas oublier une chose, c'est qu'il est entouré de vrais leaders pour le coup quand il est à la Juve. Il a Vidal, il a Pirlo, il a Marquisio, et justement ce qu'on lui reprochait à la Juve, c'était justement de pas faire assez de boulot défensif. Conte s'est rendu fou avec lui, et ça a jamais été un joueur qui était un super travailleur non plus.
Alors, il avait plus de liberté, je suis d'accord avec toi, et donc très souvent
souvent.
Il jouait presque numéro 10,
on
hein.
Retrouvait, ouais, alors presque. Voilà. C'est là la nuance, parce que pour moi, c'était tout sauf un numéro 10.
Non, non, il jouait derrière les
attaquants. Numéro 10, parce qu'il avait cette faculté, en fait. Alors là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis qu'il était pas hargneux, etc. Moi, j'ai plein d'images de matchs à la Juve où il est, tu sais quoi, j'écoutais encore pour me rendre compte, parce qu'effectivement, c'est assez loin, finalement. Ouais. Et je me suis dit, hier, quand j'ai reparlé de ça, quand je suis rentré, je me suis dit, je vais me regarder encore des images de la Juve, parce que j'ai plein d'images en tête, moi, où je le vois tacler, où je le vois hargneux, justement, où je le vois au duel, où je le vois tomber, ouais, avec les mecs, ce que je vois plus aujourd'hui avec Paul Pogba.
Et j'en ai vu plein. Vrai que c'est encore moins, hein.
Et je suis tombé sur une interview, tu sais, de Paul Scholes, ouais. quand Paul Pogba est déjà à la Juve, et il disait exactement ce que je pense de Pogba, c'est que c'était un worker, que c'était un runner, qu'il savait tacler, et qu'une fois le ballon récupéré, parce qu'il le faisait super bien, il savait effectivement être dans la passe,
mais
être dans la percussion, marquer des buts, faire tout le reste.
Mais bon, ça c'est même pas un détail, parce qu'en fait, moi de ton avis tranché, dans lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, ce qui apparaît, c'est qu'en fait, dans cette équipe de France qui est très talentueuse, qui a un potentiel de malade, on sera tous d'accord pour le dire, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de leader. Enfin, Griezmann, ce sera le leader technique, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le meilleur joueur, il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Mais en termes de joueur qui va être le bretelier de cette équipe, qui va être capable de remonter les bretelles à ses coéquipiers quand ça va être un peu difficile, quand il va falloir un peu se les sortir de là où je pense, il n'y en a pas.
Alors peut-être pas, mais je pense quand même qu'il y a des hommes forts dans le vestiaire qui tiennent quand même un peu plus le groupe que les autres. Je pense que Loris, le capitaine, déjà c'est le cas. Je vous rappelle ses déclarations avant l'Italie où il dit Pogba, d'accord, il veut devenir leader, mais d'abord qu'il soit bon sur le terrain. Oui, d'accord, mais je pense quand même que là on parle de quoi? On parle de leader sur le terrain capable d'aller mettre la pression à l'arbitre? Bon, ça, peut-être, il y en a pas. Mais je pense quand même qu'il y a des joueurs
mobilisés,
je pense qu'il y a des joueurs plus importants dans la vie de groupe, et Pogba aimerait en faire partie, et à mon avis, n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'il fait ses déclarations-là sur le football. Bah, je pense que Matuidi, Loris, Varane, c'est des vice-capitaines, ça, pour Deschamps. Joueurs qui sont là depuis très longtemps.
Pas sûr non plus que Varane. T'as raison de différencier, il y a deux situations différentes de voir des leaders ou de voir des joueurs intervenant dans le groupe. Il y a effectivement, après un match, dans une situation où t'as des discussions dans des chambres à l'hôtel, où t'as des discussions dans le vestiaire, et où là effectivement je suis d'accord avec toi, un Lloris peut prendre la parole, un Umtiti, moi je pense, peut prendre la parole aussi maintenant.
C'est quoi son vécu en bleu, Umtiti?
Peu importe, je pense que ça, à un moment donné, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il est capable de le faire. Un Matuidi, je pense qu'il est capable de le faire aussi. Je pense qu'un Pogba parfois peut le faire, mais plus maladroitement.
Jonathan, après, écoute ce que dit Pierre. La deuxième personne, toi, tu cherches Sergio Ramos, tu cherches le taulier, le patron et tout. Ça, tu l'as pas en équipe de France. On est d'accord avec toi.
Certains mecs peuvent
pas quand même dérouler dans le vestiaire.
Oui, oui. Mais la deuxième type de situation, et celle dont parle Joe, c'est celle sur le terrain où t'as un match difficile à jouer, où tu perds 1-0, à un moment donné, tu sais que t'es pas dans la bonne direction, et où il faut un mec qui porte ses et qui disent aux autres, écoute, toi tu fais pas ce qu'il faut, tu te remets là, toi c'est pareil, on y va, on fait ci, on fait ça. Là sur le terrain, je te rejoins, il y en a pas.
Et ça, moi je trouve que c'est quand même un peu inquiétant. Parce que l'équipe a beaucoup de talent.
Ça dépend comment ça va se passer.
Et je trouve que t'as quand même besoin d'un vrai taulier quand même. T'as besoin de.
Ça dépend des situations qu'on va avoir.
Et Matuidi pourrait être ce joueur-là, mais est-ce que Matuidi est vraiment sûr d'être titulaire? Même pas. C'est ça en fait. Mais je vois plein de leaders en devenir en fait. Corentin Tolisso, ça peut devenir ce genre de joueur.
Moi, la seule question que j'ai, c'est est-ce que t'en as besoin à ce point-là?
Je pense.
T'as fait finale de l'Euro sans. T'as une équipe qui est capable de développer du jeu. En fait, je pense que le taulier, le leader, c'est Deschamps sur le banc de touche dans cet esprit-là, et il est capable d'insuffler quelque chose depuis son banc de touche. Pour moi, c'est pas totalement idiot, rédhibitoire et catastrophique. Prenons vos avis.
Je sais pas si c'est rassurant, mais c'est pas idiot.
Non, mais bon,
moi ça m'inquiète quand même.
Bon, donnons la parole, pardon, à Manu qui nous rejoint au 32-16 dans l'after. Salut Manu.
Salut.
Salut Manu.
Bonsoir Manu. Alors qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense la question. Je sais pas pourquoi on se pose la question, parce que le leader, voilà, il y a les déclarations donc de Paul Pogba qui sont, voilà, peut-être pas super réfléchies. Maintenant, sur ce qu'il dit, voilà, je dois, je veux, etc. Ça, c'est pas bien. Maintenant, il est capable de se mettre le cul par terre quand il dit je peux jouer derrière, je peux jouer. Donc, ça veut dire qu'il est quand même présent pour l'équipe, et quel que soit le poste où on le mettra, il sera présent. Donc, ça, c'est déjà plutôt une bonne chose.
Tu veux dire que c'est plus de la maladresse finalement?
Je pense. Je pense. Maintenant, on cherche un leader. Le leader, voilà, il n'y a pas besoin de le chercher. C'est Antoine, c'est Zizou. T'as vu les derniers matchs. C'est lui qui organise tout le jeu.
Ouais, je suis d'accord là-dessus.
C'est un leader
oui, technique. Oui, alors attendez, encore une fois, pardon Manu, mais le leader technique, c'est Griezmann, le numéro 10. Enfin, voilà, moi aussi, je l'ai adoré contre l'Italie dans cette position-là. Mais attends, Manu, juste, laisse-moi finir. C'est pas leader technique dont parle Pogba. Puisqu'il dit, vous me mettez où vous voulez sur le terrain, c'est pas sur le terrain qu'il est pas mis dans les bonnes dispositions. Moi, j'ai l'impression qu'il demande à être
leader en dehors. Il souhaite être la figure de proue de l'équipe de France.
Voilà.
Mais il n'a pas les performances qu'il
fait. Après, bien sûr, Griezmann, c'est le leader technique. Ça, on l'a encore vu vendredi.
Mais c'est pas que le leader technique Griezmann, c'est le leader du groupe au complet, même s'il n'a pas la parole de par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, c'est lui qui mène le groupe.
Un leader par l'exemple. Ouais.
Regarde quand Hernandez fait le débordement au départ, donc Hernandez, voilà, il fait le truc, hop, il accélère, il provoque le péno. Mais t'as un Griezmann qui est derrière, qui lui dit hop, rejoue sur le soutien, moi je me décale. Tu vois, c'est lui qui organise le jeu. C'est le patron sur le terrain, il n'y a pas photo et il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Et voilà.
Je comprends ce que tu dis, Manu, mais en fait, le truc par rapport à Pogba, si on doit recentrer ça par rapport à Pogba, c'est
mais que. Non, justement,
en plus, Pogba, il joue à un poste, il joue à un poste au milieu de terrain. Ou justement, quand tu joues au milieu de terrain, Pierre, tu le sais mieux que moi, t'as une propension naturelle à justement être un leader parce que t'es au cœur du jeu, t'es au cœur de tout, tu vois aussi bien derrière que devant. Et c'est là en fait où on manque réellement de taulier. C'est simplement au milieu de terrain parce que Griezmann soit le leader, bah technique, le leader par exemple, tout ce que tu veux, il y a aucun débat là-dessus. Mais ne pas avoir taulier au milieu, je trouve ça quand même un petit peu
inquiétant.
Et en plus, on a même pas le milieu type, quoi, tu vois.
Sauf que par rapport aux joueurs offensifs qu'on a, ça peut pas être un milieu côté qui devient le leader. C'est pas possible parce que Pogba, du coup, il va être obligé d'être plus défensif dans son rôle quand t'as, voilà, Griezmann, quand t'as Dembélé, quand t'as Mbappé. Ah,
c'est sûr que le gouvernement va les faire, ouais.
Maintenant, si tu dois avoir un leader en milieu de terrain, ça sera ta vraie sentinelle, en fait. Ça sera Kanté.
Ouais, mais lui, ça, il le fera pas. Il le fera pas parce qu'il est naturellement.
Mais pardon, ne cherchez pas quelqu'un. Il y a pas besoin si le groupe vit bien et que le leader ils l'ont sur le terrain.
On peut te rejoindre, Manu.
Bah oui, pour toutes ces raisons,
moi je suis pas d'accord totalement.
Pour toutes ces raisons, même si Umtiti et Varane sont objectivement les deux défenseurs intrinsèquement les plus talentueux et de loin, pour toutes ces raisons, moi c'est pour ça que j'aimerais bien qu'Adil Rami soit titulaire.
Je suis pas sûr qu'en équipe de France, il peut assumer un rôle comme ça, il peut devenir un leader comme ça.
Il a l'expérience, il a l'âge, et je pense que les deux, je suis très inquiet. Enfin, on dévie un peu, mais je suis très inquiet sur la capacité à être dans le dur de Varane et Umtiti associés ensemble l'un avec l'autre. On les a vus très bons en club parce qu'ils sont associés à des monstres. Ramos. Les deux en même temps, je sais pas.
D'accord. Franchement, j'ai quelques doutes. La capacité d'Adil Rami à être leader dans les gros matchs aussi, c'est pas non plus.
C'est un aboyeur, les gens le respectent. C'est pas une assurance tout risque non plus. Non, mais c'est sûr que footballistiquement, intrinsèquement, il est loin des deux autres. Il y a pas de souci là-dessus.
Tu viens de ramener des problèmes là, on en avait presque plus.
C'est le seul qui a ce profil un petit peu. Tu sais, du mec qui va être un peu le chaperon, le Sherpa derrière, qui va être capable de. Mais bon, c'est un fantaisiste.
On l'a vu en équipe de France aussi, parfois en difficulté. À l'Euro, il a commencé la compétition.
Je comprends ce que tu dis. J'ai du mal à.
Je te parle du profil. Malheureusement, il a pas les qualités suffisantes.
Manu, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt dans l'after.
Ouais, ça marche. Ben, Adil, faut juste pas qu'il fasse la grosse faute dans la surface comme il l'a fait avec Marseille et c'est passé, quoi. Mais sinon,
non,
quelle faute?
Contre Salzbourg ou Leipzig? Ou les deux?
Aucun des deux, mon ami.
Un pénalty, tu veux dire?
Aucun des deux, t'es mauvaise langue.
Non, mais c'est, il a le vécu, il a le métier, c'est bien. Il est, voilà.
Manu, merci.
Salut,
à bientôt
Manu.
Dans l'after.
Ciao, allez, ciao.
Ciao.
Ciao. Pierre. À quel point les déclarations de Pogba demain, là je me tourne vers l'ancien joueur, celui qui connaît les vestiaires par cœur, à quel point ça peut avoir des conséquences, ce que dit Pogba demain dans France?
Tu sais quoi, demain ça en aura aucune, ça en aura si à un moment donné c'est un peu plus difficile au niveau de la vie de groupe dans 15 jours ou dans 3 semaines, ça peut en avoir là par contre. Donc c'est en général ce genre de choses, malheureusement, et on le dit souvent, ce sont des bombes à retardement. Si tout se passe bien, bah ce sera oublié, et puis ça se tassera, et puis on s'en foutra, et puis ça sera anecdotique. Si ça se passe un peu moins bien, s'il y a un Paul Pogba qui est en difficulté, s'il y a un groupe Paul Pogba qui commence à se créer avec un autre groupe, ça ressortira, et ça peut être lourd de conséquences. J'espère en tout cas que ça n'en aura pas, parce que ce sera pas bon signe pour l'équipe de France.
Très bien. Sur les bleus, avant l'avis de Jonathan, dans un instant sur le milieu de terrain qu'il veut voir en bleu, sachez qu'Umtiti aujourd'hui a été exempté d'entraînement. Alors ces derniers temps, il fait des allers-retours avec Barcelone pour sa prolongation de contrat. Bravo. Donc il était ménagé. clause de départ 500 millions, hein, vous avez vu, hein, pour Umtiti.
Bon, ils continuent à mettre des clauses en Espagne.
Bah, la précédente était de 60. Bah, je me demande s'ils sont pas obligés. Obligés. Bah, pour mettre 500.
C'est toi qui sais ça.
Mais non, ils sont pas obligés.
Bah, pourquoi ils en mettent alors?
Bah, c'est ma question, moi. C'est ma question.
Pourquoi, t'es sûr qu'ils sont pas obligés?
Non, je pense que c'est vraiment ancré dans leur, dans les mœurs là-bas. Mais je vois pas pourquoi ils seraient obligés de mettre des clauses. Alors, si. Il y a une seule raison où t'es obligé, c'est quand l'agent du joueur l'impose, parce qu'il est en position de force pour négocier, ouais, et que le club accepte.
Clause basse.
Ouais. Mais je vois pas une raison juridique, je veux dire, de d'imposer une clause. Et moi, je trouve que les clubs, ou en tout cas un club comme Barcelone, devrait imposer aux joueurs et à l'agent qu'il n'y a pas de clause. C'est lui qui décidera et qui sera maître du destin du joueur à un moment donné s'il veut signer 4 ans à Barcelone, quoi.
Entraînement
quand
du jour.
Quand t'es le Barça, je pense que tu peux le faire.
Oui. Entraînement du jour à 22, donc, pour les Français, divisé en 3 groupes. Sache-le, Pierre.
D'accord. Alors, comment tu divises 22 en 3?
Ouais, je sais pas. Non, alors, mais il y a deux groupes qui...
Groupes,
7, 7, 8.
Oui. Équilibré. Oui, voilà. Non, c'était une question idiote. Tu étais tombé dans le piège.
Ah ouais, 7, 7, 8,
tu peux faire,
22,
tu peux faire un groupe de 2 et deux groupes de 10.
Tu doutais de ma carte.
Mais, tu me prends pour qui?
Daniel Riolo. Qui est nul en maths. C'est pour ça. Footing, ensuite. Puis opposition et exercice de passe courte. Voilà.
D'accord.
Ok.
Passionnant. Passionnant.
Voilà.
Non, mais c'est une séance de récup, quoi.
Ah oui?
Bah, footing, bah, tu m'as dit quoi?
Exercice de passe courte.
Et la muscu, quand est-ce qu'ils y vont un peu, là?
Non, ça le font, t'inquiète pas, avant les séances et tout. Ils y passent régulièrement.
On sait combien est soulevé le footballeur, hein.
Après, il faut pas faire trop de muscu quand t'es footballeur.
Il faut pas être trop lourd, Jo.
C'est vrai.
T'es obligé de rester dans la puissance.
Je mets des coups.
Ouais, donc t'es nul.
Ouais, mais bon.
C'est tout.
Tu peux pas faire que ça. Tu finirais pas les matchs.
Non, mais d'ailleurs, on en parle jamais, mais, muscu et football, ça fait pas bon ménage.
Ah, bah si, tu fais des squats, si,
j'en mets trop de muscu, trop, ça t'enlève trop, de la sensibilité, dans le pied,
c'est comme tout le reste, finalement.
Pour l'explosivité.
Ah non, moi, je suis sûr, les joueurs ont énormément progressé, enfin, le travail sur la musculation a énormément progressé depuis une vingtaine d'années, et heureusement,
j'avais vu cette photo de Neymar, là, où c'est, qui était, enfin, je me suis un peu moqué, mais c'est peut-être, il y a une raison. Il avait l'air de vivre un enfer en faisant des squats avec 20 kilos sur la barre. 20 kilos, c'est rien.
Bah, il est pas spécialement très, tu vois, il a pas une structure très,
mais 20 kilos, quoi, c'est ce que ça lève, c'est une femme,
les femmes qui lèvent 20 kilos, quoi, tu vois. Mais il est pas puissant, musculairement parlant, quoi, tu vois.
Femmes qui soulèvent plus que 20 kilos.
Après, 20 kilos, ça me paraît pas beaucoup. Il avait pas que 20 kilos.
Il avait la barre et 10 et 10.
Ouais, c'était peut-être une fin.
Ouais,
après,
c'était
juste pour la photo.
Ouais, la vidéo.
Et après, il en voit un peu plus.
Non, 20 kilos, j'espère pour lui qu'il peut soulever 20 kilos en squat quand même. J'espère.
Cette petite discussion en musculation là était très intéressante.
C'est la première au coucher, Pierre?
Voilà, je sais plus, mais c'était très bon.
Je régalerai, on s'en fout,
Honnêtement, au niveau du haut, moi j'étais bidon. Au niveau des pecs, etc., je pouvais faire ce que je voulais, je prenais rien. Par contre, au niveau des cuisses.
Donc c'était combien?
Je sais plus, honnêtement, je sais plus du tout. Non, mais je serais incapable de te le dire aujourd'hui. Franchement.
J'ai aucune valeur pour mesurer.
Tu sais combien au coucher, toi, Jean-Louis?
Je sais même pas. Coucher de quoi?
On développe le coucher.
Ouais, c'est ça.
Au coucher le soir.
Je suis meilleur à l'arracher, je crois.
Tu t'arraches de la salle.
Bah, si, je connais les deux trucs d'haltérophilie, mais c'est tout, quoi. Et sinon, les protéines, ça va, Jonathan? On en est où?
Je fais un petit checker avant d'arriver, là.
Ah oui. La poudre d'aileron de requin, ça va, t'en prends encore?
Non, le prochain checker protéines, c'est très bien. Avec un peu de créatine dedans, c'est parfait. Pas,
dans un instant, l'avis tranché justement de Jonathan, vous allez comprendre quel genre de produit il prend.
Doit-on autoriser le dopage dans le football?
A tout de suite.
La créatine, c'est pas du dopage. Hein.
Oh. RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
Pierre Dupraux est là, Jonathan McCarty est là également avec ses conseillers en musculation qui font un tabac sur le hashtag RMC Live. Chose à vous dire déjà, il y a bien des clauses libératoires obligatoires en Espagne, hein, évidemment, on allait regarder et vous avez été nombreux sur le hashtag RMC Live, donc correctif fait. Sinon, il prend quoi le mec qui préfère Rami à Umtiti et Varane, nous demande Mathias.
Bah, j'ai parlé de caractère, ça a rien à voir.
On en a parlé juste après, donc c'était bon. Les questions de l'after à venir dans un quart d'heure. Question l'after avec pas mal d'actu. Yaya Touré à Marseille, notamment. Fellaini qui discute avec le PSG.
Ah bon?
Oui. Et Karius.
On a la même réaction aussi là. Ouais.
Faut-il réhabiliter Karius avec les éléments nouveaux que nous avons ce soir? Ce sera dans les questions de l'after. Dans un quart d'heure, mais tout de suite, jingle McCarty.
Quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins.
Objurgation, nom féminin, vivre montrance en particulier pour détourner quelqu'un de ses projets.
Là, j'ai tout compris.
C'est génial, je la connaissais pas, ça.
Non plus. Là.
Pierre, tu t'étonnais déjà du recrutement exogène, bah là, il y a objurgation.
Bah, on va voir. Non, mais je l'avais compris, le mot exogène.
Bien sûr,
t'es un ancien footballeur, arrête.
C'était pour chambrer un petit peu de Joe.
Ouais. Bon, c'est pas vraiment un ancien footballeur, Pierre, il est un peu...
Mais je sais, il est au-dessus.
Évolué.
Sinon, c'est pas une...
Alors Jonathan, toi tu as une vision, tu vois le milieu de terrain idéal pour l'équipe de France.
Et ouais, mon avis tranché c'est libérer N'Golo Kanté, offrez-lui un Steven Nzonzi. Bon, alors je trouve que les clichés ont parfois un petit peu la peau dure. Alors il est petit, il est râblé, il a une allure, un bras similaire dans sa conduite de balle, dans la manière dont il se comporte sur le terrain, dans sa capacité à ratisser. Donc forcément, pour les gens, N'Golo Kanté, ça doit être Claude Makélélé. Mais non, je suis pas d'accord. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. Si on regardait un petit peu les matchs pour éviter de dire certaines sottises.
C'est pas de là, la
sérendipité.
Voilà, je suis désolé.
C'est pas une découverte, c'est pas la vierge qui nous a paru de dire que Kanté c'est
dans
plus.
Dans mon petit comment t'écris ça?
Sérendipité.
Tu fais exprès pour
mon jingle. Comment tu l'écris s'il te plaît, tu peux me l'appeler?
C'est Sérendipité. Sérendipité. Pierre, ça t'apportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder. Pour les petits week-ends avec maman, ce sera parfait.
Pierre le note sur son iPad. Hein.
Voilà.
Donc, sérendipité. Oui. Okay. Si on regardait un petit peu les matchs pour éviter de raconter des sottises. Parce que, alors, si on regarde qui est N'Golo Kanté, accompagné de Drinkwater avec Leicester,
oui,
accompagné de Matic l'année du titre avec Chelsea, Kanté c'est un formidable box to box. Ça a jamais été cette espèce de, enfin ce que les gens appellent la sentinelle devant la défense. C'est pas le mec qui va rester devant la défense, et je trouve que de dire que Kanté c'est un numéro 6 pur et dur, le mec qui est vraiment voilà devant sa défense à jouer en sentinelle, c'est un petit peu donner de la confiture au cochon. Sa capacité à récupérer le ballon haut, sa faculté à briser des lignes, que ce soit par ses dribbles ou par ses passes courtes, l'influence qu'il a sur le bloc équipe, cette capacité à accélérer et à faire remonter tout le bloc de 30 mètres en un éclair, pour moi c'est un box-to-box de classe mondiale. C'est pas un mec que tu dois faire jouer devant la défense. Alors pourquoi vouloir le cantonner à ce rôle un petit peu limitant? Moi j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi Deschamps avait dit que N'Golo Kanté ça devait être la sentinelle des Bleus. Alors quand on regarde un petit peu la structure de la liste de Deschamps, elle est ainsi faite qu'il y a qu'un seul homme en fin de compte qui peut permettre à Kanté de jouer à son vrai poste. Et ce seul homme, c'est pas Matuidi, qui a un petit peu le même profil, c'est pas Corentin Tolisso que j'adore, qui est extraordinaire mais qui a le même profil, c'est pas Paul Pogba qui a pas du tout ce profil là. Il y en a aucun qui a cette capacité là, sauf Steven Nzonzi. Alors ouais, c'est pas le nom forcément le plus sexy dans cette liste là, c'est pas forcément le nom le plus saillant, le premier, le mec tu dis c'est un joueur de classe mondiale, mais c'est le seul joueur qui a cette vraie capacité à rester bien devant sa défense. Et qu'est-ce que j'entends par bien devant sa défense, Pierre? Tu le connais mieux que moi ce profil là. C'est ce joueur qui est capable de faire le pas en arrière sur les phases défensives pour se mettre entre ses deux centraux et apporter le surnom défensif. C'est le joueur qui est capable de faire le pas en avant et remettre tout le bloc équipe dans le sens de la marche dans les transitions offensives. Et ce joueur là, bah Adrien, t'aurais pas dû chialer, mais il y en a qu'un. C'est Nzonzi. Alors, il aurait pu avoir Rabiot, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Mais bon, c'est le seul qui a ce poste-là. Alors moi, je dis que quand on a un joueur de la classe d'N'Golo Kanté, parce que faut pas s'y méprendre, hein. N'Golo Kanté, c'est un joueur de classe mondiale. Mm-hmm. Quand on a un joueur de cette classe-là, qui peut changer, transformer la phase de ton équipe, il a quand même fait gagner le titre à Leicester, et ça a quand même été un des artisans du titre de Chelsea. Quand t'as un joueur de cette classe-là, tu le mets dans les meilleures conditions, tu le mets à son meilleur poste, et son meilleur poste, je suis désolé, j'en ai marre que Deschamps le mette devant la défense. Alors, stop avec ça. Maintenant, malheureusement, t'en as pris qu'un numéro 6, Didier, ben, mets-le, saison-y. Même si c'est pas le meilleur des joueurs intrinsèquement, mais faut arrêter de mettre Kanté en 6 et faut mettre Nzonzi, vu que c'est le seul qui est capable de jouer à ce poste-là. Alors que ça soit à 2 ou à 3, tu fais un double pivot, c'est Nzonzi, Kanté. Un milieu à 3, tu mets Nzonzi, Kanté et Tolisso.
Mais
faut arrêter avec ça. Je trouve que c'est une aberration et c'est vraiment, comme je le disais en introduction, donner de la confiture au cochon. Donc j'espère que Nzonzi sera titulaire pour permettre à Kanté de donner le maximum de son potentiel.
Alors Pierre, tu vas répondre bien sûr sur le foot, il y a pas de problème. Je vais enquêter parce que on me dit que sérendipité de figure même pas dans les dictionnaires français.
Mais bien sûr que si.
Bah écoute, je viens de recevoir ce tweet de Samy. Si.
Mais
je vais vérifier,
si.
Mais tu dois avoir raison.
Je vais les vérifier.
Non, mais je pense que ça existe, oui. Mais depuis peu.
Samy?
Oui, c'est Samy.
Samy, tu déconnes.
Alors, sérendipité.
Non, mais je vais enquêter Pierre sur sérendipité. Je te laisse sur le foot.
Sérendipité.
Qu'est-ce que tu penses de l'avis de Jonathan?
Sérendipité ne figure même pas dans les dictionnaires français.
Oui,
ici, de serendipity, ah, c'était pour ça, c'est une.
Non, mais si, c'est.
Il signifie don de faire des trouvailles.
Non, ça
le terme forgé par le collectionneur Horace Walpole.
Non, mais si, moi je le vois sur le site de l'Académie française. Ils disent que c'est là depuis une quinzaine d'années.
Voilà. Bon, plus sérieusement, alors, je suis d'accord avec Jo sur le fait que N'Golo Kanté, et on l'a souvent vu en, comme ça, que ce soit à Leicester ou à Chelsea, ou même avant d'ailleurs.
À quand, ouais?
Et tu sais quoi, même avant.
même à Boulogne sur mer. Moi, je l'avais déjà vu là-bas et voilà, il y a une, voilà, un jour je vous raconterai une petite anecdote, mais il était déjà très très fort. Non, parce que c'est trop long, je vous le raconterai une autre fois. C'est pas très très important, mais par contre, il avait déjà cette capacité, et je suis d'accord avec toi, à aller presser très haut et son pressing à aller le faire même sur le 6 adverse parfois et que quel que soit le niveau, c'est pour ça que je parle de Boulogne, il le faisait à ce niveau-là et il est capable de le faire au très très haut niveau international, t'as raison. Sauf que quand t'es tout seul devant une défense, effectivement, tu peux pas aller presser. Tu peux pas passer devant tes deux milieux relayeurs et le faire. C'est pas possible. Donc, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, tout seul, en sentinelle, ça restreint un peu son champ d'action.
Il est très bon, hein.
Non, il est très bon.
Genre de classe.
En fait, tu lui coupes une partie de ce qu'il est capable de faire. Donc moi, alors après, j'y crois pas au Nzonzi maintenant parce que c'est trop tard. Deschamps le fera pas, c'est impossible, on l'a jamais fait et j'y crois pas malheureusement. Par contre, ce qui serait possible,
c'est un vœu pieux.
Imaginez, non mais c'est de mettre effectivement 2-6. Et dès que t'as 2-6, eh ben il y en a un effectivement qui peut sortir un peu plus haut parce que tu sais qu'il y a l'autre qui corrige derrière.
Alors,
et qui,
mais dans
et
les 2-6,
moi je vois deux problèmes à votre discussion.
Excusez-moi. Ouais.
Tu peux mettre un Nzonzi par exemple si tu veux et un N'Golo Kanté. Tu peux mettre un Tolisso et Kanté.
Mais Tolisso tu le gâches aussi.
Moi je vois deux problèmes dans ce que vous dites. Déjà, Jonathan, effectivement, c'est un vœu pieux et c'est pas la logique de Didier.
Oui, alors ça c'est autre chose.
On essaie de la,
si
de
on
comprendre,
parle de que ce qui est possible de faire, enfin que ce qui est pour le logique, coup,
voilà.
Et est-ce que Deschamps, va faire Deschamps, on en parle même pas, on oublie.
Double
là, on
E, bien sûr.
Vie, on
mais là, on a compris que Kanté, c'était son numéro 6. Ouais. Et l'autre truc, quand même, c'est que enfin, on a quand même quelque chose, je trouve, qui tourne plutôt bien depuis deux matchs, le milieu à trois, le losange. C'est peut-être pas le moment de changer, d'en remettre deux devant
non,
la défense.
Non, on changera pas de manière. On le sait déjà.
Ah, moi, ça me plaît.
On ne changera pas.
Moi, ça me plaît. Colombie, ça a pas pris l'eau.
Non, c'est équilibré.
Non, c'est vrai. C'est pas le
système. Moi, j'ai envie de voir ça.
Joe, c'est équilibré. Mais je suis d'accord avec toi. C'est équilibré, mais tu te prives d'une partie de ce que pourrait faire effectivement N'Golo Kanté et qui peut faire mieux que personne quasiment. Voilà.
Non, mais là où je te suis, c'est qu'effectivement, il faut pas qu'on installe l'idée que c'est ainsi. Ouais. C'est voilà. Et effectivement, il a d'autres qualités.
Ben, on a tous en tête plein d'images de N'Golo Kanté qui va presser un 8 et puis
même
un 10 et puis qui va presser le 8
même de dire que Tolisso
est capable de faire ça.
Tolisso, ça sera aussi du gâchis de le mettre devant la défense.
Oui, alors moi je te parlais si jamais tu voulais jouer à 2-6.
Il a marqué 10 buts pour cette saison.
Ouais, non, c'est
il a
bien
fait
sûr
son passe décisif.
Son vrai poste, c'est un peu
ça
plus haut.
Ça serait un sacré gâchis. Ouais.
Et puis malheureusement, il est très bon en 8 côté droit.
Voilà.
Mais c'est peut-être pour ça que Deschamps finalement sacrifie une partie des qualités d'N'Golo Kanté en le cantonnant à ce poste-là parce qu'il a d'autres joueurs qui peuvent jouer devant lui. Et
enfin bref, cet avis c'était un vœu pieux. Et puis
ça en restera là.
Ça en restera là, mais c'est juste parce que, enfin, je trouve quand même que c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment du gâchis et ça me laisse encore plus de regrets sur le fait que Rabiot soit comporté de la sorte.
Parce ouais, que alors Rabiot, après, tu sais quoi, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne solution.
Rabiot devant la défense. Je trouve que c'est son meilleur poste. Mais c'est une autre discussion.
Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, moi, par rapport à la saison que j'ai vue d'Nzonzi, je me dis que si tu veux en mettre un devant la défense, Nzonzi
est très bon aussi. Hein.
Est très bon,
ouais. Les deux sont très bons, ouais.
Jonathan Sélectionneur nous dit Valentin, il a tout compris. Enfin, un journaliste avec une idée pour gagner. Oui. Fan de l'OM est également d'accord avec toi sur le poste. OM Marseille, pardon. Je suis d'accord avec Jonathan. Quand t'es en 6, c'est vraiment du gâchis. Parce que je le trouve meilleur offensivement que Pogba.
Bah oui.
Nous dit-on.
Il apporte plus.
Voilà. Et puis, évidemment.
C'est pas offensivement. C'est qu'il va être beaucoup
dans la construction.
Plus, voilà. Puis, ouais, non, mais même beaucoup plus efficace quand tu défends comme ça en pressant et en avançant. C'est surtout ça. Et que c'est effectivement un des principes de jeu de Didier Deschamps, normalement.
32-16, on vous donne la parole. Karim nous rejoint. Salut Karim.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Karim.
Salut Karim.
Qu'est-ce que tu penses de la vie tranchée de Jonathan?
Je suis un peu d'accord avec lui. Pour moi, il faut changer le système de jeu. Il faut passer en 4-2-3-1. Parce que pour moi, le 4-3-3, il faut au milieu de terrain, ok, un 6, mais il faut que les 2-8 ce soit des leaders techniques sur le terrain. Et je pense qu'en équipe de France, au vu de la prestation de Pogba, pour moi, il faut jouer en 4-2-3-1 avec 2-6, qui seront N'Golo Kanté et Tolisso.
Mmh, et pour moi, pourquoi il faut...
Non, je vous dis pourquoi il faut jouer comme ça.
Vas-y.
Pour moi, quand je vois la liste de Deschamps, je trouve qu'on a la chance cette année d'avoir d'excellents latéraux, et il faudrait un peu calquer notre style de jeu, je pense, avec le Bayern Munich en 4-2-3-1. En jouant avec deux ailiers, Dembélé et Mbappé, un attaquant qui sera en point de fixation, Giroud, et ensuite un 9,5 avec Griezmann, et on jouera en mode rouleau compresseur. Parce qu'on va avoir des équipes faibles qui vont surtout rester devant la défense, et il faudra qu'on joue en allant presser, en jouant 4-2-3-1, l'apport des latéraux, que ce soit Benjamin Mendy ou bien Lucas Hernandez, ou de l'autre côté, Pavard ou Sidibé, qui monte beaucoup. Un peu comme le Bayern Munich avec Alaba et Kimmich.
Pardon de te couper, mais.
Et deux 6 qui sont là et qui font le
complémentaire.
On voit bien ton idée, mais tu vois pas que, toi, plein de bonnes choses dans ce losange, là, qu'on voit depuis deux matchs. Si. Moi, j'ai l'impression que, vu les joueurs qu'on a à leur profil, je trouve ça top.
Attends, mais
les latéraux qui montent.
C'est nickel.
Les 8.
Le losange, c'est parfait.
Bah oui, c'est pour ça, donc pourquoi y toucher? Mais moi, Griezmann en soutien des deux attaquants, moi, ça me plaît beaucoup.
Le losange, c'est parfait, mais c'est juste les joueurs qui sont pas à leur place optimale. Quand c'est toujours un losange. Moi, je mettrais Zonzi en 6.
Franchement,
Attends. Griezmann, moi je le mettrais dans le duo d'attaque avec autre numéro 10
avec Fekir
en 10 ou même ça fait sourire beaucoup, mais Pogba joue à ce poste-là dans un milieu en losange. Mais je trouve que c'est la meilleure solution parce qu'on a les latéraux qu'il faut, on a les relayeurs qu'il faut, mais
sur le système, je peux vous
rejoindre, mettez les bons joueurs à leur place, quoi.
Non, sur les hommes, j'ai plus de mal. Enfin, Pogba, tu veux dire à la pointe du losange.
Il a joué déjà à ce poste-là, il a été très bon à la Juve.
Je pense pas que ce serait lui rendre service là maintenant et
la même équipe de France. Tu pars avec Fekir, si tu pars à ce système, tu pars avec Fekir titulaire.
Avec deux flèches devant.
Moi aussi, honnêtement, je trouve que ça marche bien et je trouve qu'on commence à avoir quelques automatismes.
C'est bien aussi, parce que Griezmann, il sera bon partout, tu le mettras. Mais moi, j'aime bien le voir près du but, Griezmann. C'est un joueur qui met sa trentaine de buts par saison.
Il peut y être.
Oui, bien sûr, mais j'aime bien plus le voir à la finition qu'à la construction, parce que je pense que c'est le meilleur finisseur qu'on a en équipe de France.
Après, quand t'es en losange, t'es pas loin de la finition.
Oui,
c'est vrai aussi.
À lui de sentir le bon timing, tempo pour y aller de temps en temps et au bon moment surtout.
Karim, merci d'être venu dans l'after.
Ciao,
à très bientôt.
Merci. Ciao, à vous. Je peux passer une dédicace?
Bah bien sûr.
10 euros.
Bah, je voulais passer une dédicace à Sofiane Easy, celui qui m'a fait découvrir l'after.
Ouais.
Voilà, la dernière fois que je suis passé, je l'ai pas dédicacé, il m'en a voulu.
Ah bah, il a raison. Salut Sofiane.
Merci. Ciao Karim. Merci. À bientôt.
Ciao Karim.
Dans un instant, les questions de l'after et notamment Karius. On a tout pour vous expliquer pourquoi il a fait une finale de Ligue des Champions aussi catastrophique. Ah. À tout de suite.
Il avait l'hôtel du cul tourné de maman.
Non.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Pierre Ducrot est là, Jonathan McCardy également. After spécial Coupe du Monde à 10 jours du début de la compétition. On retrouvera nos drôles de dames, David Lorto, Philippe Auclair, mais également Jonathan pour nous parler du Pérou, de l'Argentine, et Stéphane Rosenbaum pour le Brésil. Ce sera dans la deuxième heure de l'After. Tout de suite, les questions de l'After. Faut-il réhabiliter Loris Karius? Pourquoi? Parce qu'il a passé des examens médicaux vendredi à l'hôpital de Boston et l'hôpital a donné donc ses conclusions aujourd'hui. Il a été victime donc d'une commotion cérébrale pendant la finale suite au contact avec Sergio Ramos et le communiqué est le suivant. Au moment de notre évaluation, les principaux symptômes résiduels présentés par Karius suggèrent qu'il y a eu un dysfonctionnement de sa vision spatiale. Il est possible que de tels déficits affectent la performance. Donc en gros, il a pas vu Benzema arriver, il a pas bien vu le ballon.
J'ai plus en mémoire, mais est-ce qu'il est un peu KO après le coup de coude?
Il tombe.
Eh ben alors ça s'explique. Hein.
Ça
m'est déjà arrivé plein de fois de me prendre un coup de coude dans la tronche et de tomber par terre. Je t'assure que même pendant 2-3 jours, tu vois pas clair, tu marches pas droit, tu perds l'équilibre. C'est normal. Dans les sports de combat, s'il y a un protocole, et même dans le rugby, s'il y a un protocole commotion, aussi dans les sports de combat, quand tu prends un KO, t'as pas le droit de t'entraîner pendant un mois ou deux, c'est qu'il y a une raison.
Voilà.
Tu perds tous tes repères spatio-temporels.
Du coup, on va peut-être être moins sévère avec lui. Hein.
C'est pas un mauvais gardien, pas un super gardien, mais c'est pas un mauvais gardien non plus.
Ah, c'est pas un gardien qui fait ce genre d'erreur normalement.
Voilà, exactement.
Dans le même match et ce genre d'erreur. Quoi.
Voilà, donc pour.
Non, mais ceci dit, c'est intéressant de le savoir.
Bah oui.
Non, mais c'est pas toujours intéressant tes infos, Jean-Luc.
Comment? Dans la question de l'after. Non, c'est les façons de les tourner, peut-être, qui sont pas tout le temps passionnantes. Autre info. Alors là, ça concerne l'OM. Yaya Touré qui fait une véritable offre de service.
Non.
À 35 ans. Non. À Marseille. Il dit dans France Football, l'OM, c'est le genre de défi qui pourrait bien me plaire. Car ils sont en train de construire un joli projet. L'aventure en est au début et participer à ce genre d'opération correspond tout à fait à mes envies.
Oh, et je voudrais m'y inscrire pour 3-4 ans.
Non, mais alors ça, c'est typiquement le mec qui gagne au loto, qui levait aucune nana avant. Et puis là, d'un coup, t'as tout qui lui arrive. T'as les plus belles et les celles qui sont vraiment sur la fin et qui ont quand même envie de croquer un petit peu encore. Non, stop. Faut arrêter ces âneries.
Ah, tu parles de l'OM, là?
Ouais.
Pardon, je croyais que tu parlais de
Touré. Non, pas de Touré.
Ça fait longtemps qu'il a gagné au loto, lui.
Faut arrêter les âneries. Non, franchement, non. C'est pas, t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'un joueur qui va venir en pré-retraite.
Il est moins bon que Zambo Anguissa?
Il est en pré-retraite.
Il est libre.
Arrête.
Moi, j'ai adoré Yaya Touré.
Il est libre.
Non, mais franchement.
Mais on l'a tous adoré.
J'ai kiffé ce joueur-là à un moment donné. Mais là, c'est plus Yaya Touré de...
À Marseille, tu sais qui c'est qui? Je vais vous dire qui.
Honnêtement, tu peux pas. Tu peux pas.
Vas-y.
Faut prendre Clément Grenier.
Ce poste-là.
Parfait.
Ouais. C'est pas le même poste.
Il joue relayeur. il peut jouer relayeur.
Ouais, je sais même pas. Enfin, moi, je pensais à ça, mais en tout cas, pour moi, Yaya Touré à l'OM, ce serait une erreur, quoi.
D'accord.
Ce serait une erreur.
Il peut jouer relayeur et peut doubler le poste de Payet.
En termes de, enfin, je sais, pour mettre de l'intensité, etc. C'est pas fini.
Ça, c'est le genre d'idée que Marseille, s'ils veulent passer l'étape.
Non, mais Marseille n'a rien dit.
Mais si tu veux passer l'étape supérieure, faut arrêter ce genre de recrutement sur le retour.
Enfin, même Marseille, ça y est, les autres d'ailleurs.
Jurisprudence Patrice Evra, je parle même pas du high kick.
On se permet de repousser Yaya Touré maintenant. Très bien.
Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais
Marseille. Autre info sur l'OM. C'est pas une question de la
forme. Tu repousserais Brigitte Bardot, tu sais. Elle était belle avant. Mais maintenant.
Ouais. Non, mais j'aimerais bien qu'on arrête avec ces comparaisons entre pas loin du sexisme. Attention, Jonathan. Pardon. Attention. L'OM qui a annoncé par ailleurs aujourd'hui avoir résilié la convention qui le liait au groupe de supporters des Yankees.
Ah,
c'est très important.
Ah, oui,
l'association
oui.
de Michel Tonini qui existe depuis 1987. Donc les Yankees seront exclus de la prochaine campagne d'abonnement du Vélodrome. Le début c'est lundi prochain, une décision notifiée par huissier aujourd'hui. On parle quand même de 5500 membres pour les Yankees. Alors en fait tout ça c'est la conséquence de plusieurs dysfonctionnements et notamment une double billetterie pour laquelle l'OM aurait porté plainte. Voilà.
Donc ça veut dire que s'ils veulent garder leur groupe de supporters, il va falloir qu'ils s'abonnent comme tout le monde, mais ne géreront plus la billetterie. C'est ça?
Je pense même qu'il y aura plus d'espace.
Tu pourras plus t'abonner directement chez les Yankees. Non, ça peut-être
pas,
mais
ils vont pas détruire le groupe de supporters.
Tu sais comment ça se passe? Tu passes par le groupe de ton groupe de supporters pour prendre la billetterie. Là, je pense que
là, tu passeras directement par l'OM si tu veux rester dans ton groupe.
Je pense, ouais. C'est un gros truc.
Ouais, c'est ça. Il y aura plus de double billetterie.
Ça va faire du bruit, cette histoire.
Exactement.
Oui, ça va pas leur plaire, sûrement.
Écoute, on essaiera d'appeler Michel Tonini à RMC pour avoir sa réaction. Fellaini discute avec le PSG. Comprenez-vous ce choix sportif? Alors, je vous donne quelques infos. Alors, tout est détaillé vraiment avec précision sur rmcsport.fr. Loïc Tanzi et Sacha Tavolieri ont enquêté aujourd'hui. Donc, ça discute, mais il faut quand même être très prudent. Il est en fin de contrat, Fellaini. Il a 30 ans seulement. Hein, je pensais qu'il avait plus, moi, mais il a 30 ans. Il est conseillé par Raúl Costa, qui est un ancien avocat portugais et qui est très proche d'Antero Henrique. Ils auraient discuté ensemble, ils auraient même avancé nettement dans les négociations. Mais il faut quand même être prudent parce que Tuchel n'a pas validé ce choix encore. Et puis, visiblement, Fellaini réclame beaucoup d'argent pour une prime à la signature. Donc, on n'en est pas là. Il y avait eu des contacts déjà au moment où le PSG cherchait un milieu devant la défense et a pris la Sanadiara. Donc, tout ça reste à élucider, d'autant que Fellaini travaille également avec Luciano Donofrio, qui est un ancien agent, mais qui a également des parts dans le club d'Anvers, donc qui ne peut pas représenter directement Fellaini. Donc, ça discute. Sportivement, vous en pensez quoi de ce choix?
Pas le bon. Pour moi, pas le bon du tout. C'est pas du tout. Moi, si je me cantonne aux sportifs pour l'instant.
Tu préfères Yaya Touré?
Non plus. Mais pour moi, c'est pas du tout le bon choix pour le PSG. Et je pense honnêtement, alors je vais pas mettre en doute les infos, etc. Mais j'ai presque des doutes à penser que le PSG puisse s'intéresser à Fellaini aujourd'hui.
Bah, voilà. Moi, je pense que il est possible que Antero Henrique travaille sur des dossiers, avance sur des dossiers.
Je verrais pas l'intérêt de ramener Fellaini au Paris Saint-Germain sportivement. Voilà, pour plein de raisons, mais dans ce rôle, alors si on veut en plus le mettre devant la défense, là,
ouais,
dans,
c'est ça. L'idée,
c'est plus un mec qui va aller harceler, on a répété cette saison sans arrêt qu'il fallait devant cette défense un rageux, un mec qui allait mettre des coups, qui allait harceler, qui allait avoir du vice, etc. C'est pas du tout le profil de Fellaini, je suis désolé.
Pour jouer plus haut.
Bah oui, ouais. Alors si tu veux, mais donc plus haut, je pense pas que ce soit la priorité. Alors après il y a une donnée, c'est que pour l'instant on voit beaucoup de dossiers au PSG de joueurs libres. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fair play financier? Ouais. Est-ce qu'ils se pencheraient sur ce genre de dossier parce qu'ils n'ont pas le choix?
Pierre,
je sais pas.
C'est pas un mauvais joueur. Il a une allure.
Non, j'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. J'ai dit que ça ne correspondait pas aux besoins du PSG.
Il a une allure un peu voilà qui fait que t'as l'impression qu'il est il est pas très élégant, donc t'as toujours forcément t'as peut-être un a priori. On a tous un a priori négatif quand on le voit jouer, mais ça reste quand même un joueur qui a un impact certain à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Après, de là à dire que c'est la priorité, je suis dangereux, c'est.
Pff. Ouais, non, mais moi j'ai pas d'a priori parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Il a une certaine pas nonchalance, mais un petit peu, on pourrait croire, mais
dans il ce est qu'il moche fait, à voir, c'est tout.
Ouais,
bah,
dans
faut
ce
le
qu'il
dire,
fait, hein. Il est souvent efficace, mais voilà, c'est pas le besoin du PSG aujourd'hui.
Non, c'est clair.
Correspond pas à ça pour moi. Quoi.
Bah, sauf si il faut remplacer Thiago Motta.
Non, c'est parce qu'il est pas dans ce rôle-là. Il est pas dans ce rôle-là.
Il faut essayer de l'entendre comme ça après.
Ah bah oui, mais ça serait aussi bête que de mettre Kanté devant la défense, quoi.
Encore plus, je
trouve. Encore plus, c'est vrai.
Dernière question de l'after. Vous savez que dans les questions de l'after,
oui, t'en as toujours une un peu.
Non, même pas. Mais on en profite souvent pour parler tout au long de la saison des clubs de Ligue 1 dont on n'a pas parlé depuis le début. Ben là, on va parler de Christophe Pélissier, puisqu'RMC Sport a appelé.
Super entraîneur.
Bien sûr, Bernard Joinin, le président d'Amiens, puisqu'on en voit Pélissier un peu partout ces derniers temps, une des révélations de la saison. Et Bernard Joinin dit Christophe Pélissier est en contrat avec Amiens. Nous discutons même des termes d'une prolongation, et cela va dans le bon sens. Il paraîtrait cependant que certains dirigeants aient enfreint les règles en parlant directement avec lui. Plutôt que de passer par le club. Est-ce que selon vous, Pélissier, s'il est sollicité, il devrait franchir le cap, partir, ou est-ce que il faut rester fidèle dans ces cas-là après une seule saison en Ligue 1?
Il peut, enfin les deux solutions s'étudient. Voilà, ça pas partir pour partir, non, mais partir, non. Il y a des clubs où il s'éclaterait, je pense.
Et là, le niveau, je pense.
Ouais, voilà, et où il pourrait faire effectivement, où il a les compétences. Maintenant, rester à Amiens me paraît pas une mauvaise solution non plus.
En plus, ce qu'il y a, moi, je pense que c'est un entraîneur, il est destiné à aller dans un club plus important.
Ouais, mais là, il peut aussi prendre le temps qu'il faut.
Et se prendre le temps, c'est pas mal. Et puis, en plus, ça rendrait très triste Jean-Marc, le responsable de la maison du whisky, qui va au stade de la Ligue 1 tous les 15 jours, et qui est très inquiet quant au futur de Christophe Pélissier, je le salue.
C'est où la maison du whisky?
Dans Paris. Il y en a deux, il y en a huit, dans le 8e, vers Madeleine.
Lui, très bien.
Et alors, à chaque fois qu'on parle de Damien et de Pélissier, de manière, il place la maison du whisky, comme ça, je pense qu'il a, quand il arrive dans la maison du whisky, il a une petite ristourne.
Il y a des gens qui ont des caves à vin. Moi, j'ai une armoire à whisky.
Ouais, je sais, Joe.
Très bien. Avant la vie tranchée, t'en avais bu un peu?
Non, jamais avant le travail. Après, par contre, ça c'est une autre affaire.
Alors c'est bien de le dire, jamais avant le travail, parce que pour certains points de vue, pour certaines prises de position, on se posait des questions. Mais
ça le part, Marc.
Merci.
Ça aurait expliqué certaines choses.
Regarde, Jean-Louis, mais Jean-Louis, t'es fielleux un peu, en fait. Je pensais que t'étais gentil.
Mais bien sûr, je suis gentil, je suis bienveillant, mais on peut rigoler quand même.
Bien sûr.
Ça va. Dans un instant, les drôles de dames arrivent. Jonathan met sa casquette de spécialiste du foot sud-américain, ta perruque péruvienne. Et ton maquillage de l'Argentine. Ce serait magnifique. Parce que faut pas l'oublier que tu as le physique du sud-américain quand même. On l'oublie, c'est installé, mais voilà, c'est comme ça. Et puis on sera également en Angleterre, en Allemagne et le Brésil également à vie tranchée à venir sur le poste d'avant-centre du Brésil. À tout de suite dans l'After jusqu'à minuit.
RMC, le super football show, l'After Foot.